Ce lundi, la reddition de Laurent Gbagbo a mis un terme à plus de 4 mois de crise en Côte d'Ivoire. Sous la pression des casques bleus de l'ONUCI et des soldats français de la force Licorne, les partisans du président sortant se sont rendus. Alassane Ouattara est désormais le seul maître à bord. Son plus grand défi, la réconciliation des Ivoiriens dans un pays proche, une fois de plus, de la guerre civile. Mais une réconciliation qui ne concerne pas chrétiens et musulmans, c'est ce que nous explique Mgr Touabli, évêque d'Agboville.
Musulmans et chrétiens, nous avons toujours vécu en bonne entente. Ici, venez en Côte d'Ivoire, vous verrez que dans la même famille, vous trouverez des catholiques, des musulmans qui vivent en bonne harmonie, dans le même village, dans le même quartier. C'est la politique qui, pour des desseins inavoués, a essayé de nous opposer. Mais la politique n'a pas réussi. Il n'y a pas de réconciliation à faire entre chrétiens et musulmans, parce qu'il n'y a jamais eu de conflit réel entre chrétiens et musulmans.
En Libye, l'heure de la réconciliation semble encore bien loin. Les frappes de l'OTAN contre les troupes du régime Kadhafi ont continué cette semaine. Selon l'ONU, plus de 3,5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. La Croix-Rouge est présente dans le pays. Christian Cardon, son porte-parole pour le conflit en Libye, revient sur les objectifs de cette mission.
Une priorité pour le comité international de la Croix-Rouge est d'accéder à tous les détenus, toutes les personnes qui auraient été arrêtées pendant le conflit, aussi bien à l'est du pays qu'à l'ouest du pays. Une autre préoccupation du CICR, c'est tout ce qui concerne la contamination par les restes explosifs de guerre, donc toutes ces munitions qui sont tombées, qui continuent à tomber en Libye. On voit aussi de nombreux véhicules qui ont été abandonnés, des chars, des véhicules blindés abandonnés sur le bord des routes, qui représentent un danger très très important pour la population qui ne participe pas aux hostilités.
Dans le monde arabe, les mouvements de contestation n'ont pas cessé cette semaine. Le Yémen et la Jordanie étaient toujours agité et en Syrie, l'annonce d'un nouveau gouvernement n'a pas calmé les foules. Le mécontentement général semble prendre le pas désormais sur la peur des arrestations massives lors des manifestations. Jeudi, le président syrien Bachar al-Assad a décidé de libérer les personnes arrêtées depuis le 15 mars. Pour Michel Fournier, responsable du bureau Maghreb chez Amnesty International France, ces libérations sont ciblées.
Je pense qu'ils gardent essentiellement les personnes qu'ils ont arrêtées qui leur paraissent plus dangereuses, qu'ils ont ciblées parce que ce sont des défenseurs des droits de l'homme plus connus, des journalistes, des blogueurs, des avocats, des gens dont ils se rendent compte que sont, si on peut dire, les personnes qui animent la contestation. On voit la répression s'aggraver presque de jour en jour, en tout cas de semaine en semaine. On a une liste nominative de plus de 200 victimes, mais en fait, il est probable que le nombre de morts soit beaucoup plus élevé.
À Gaza, il aura suffi d'un seul mort pour susciter l'indignation générale. Jeudi, le pacifiste italien Vittorio Arrigoni a été exécuté dans la bande de Gaza. Il avait été enlevé quelques heures auparavant par un groupe salafiste. Un meurtre qui a choqué les Palestiniens. Rome a exprimé sa profonde horreur et le Hamas a condamné l'assassinat. Le groupe terroriste serait-il en train de perdre le contrôle de Gaza? Agnès Pavlovski, sociologue et spécialiste du Hamas, répondait à cette question.
Ça me paraît quand même un peu précipité d'envisager qu'ils perdent le contrôle. Maintenant, est-ce que les salafistes représentent un contre-pouvoir aujourd'hui? Certainement non. Est-ce qu'ils vont se développer? C'est possible. Là où il y a une inquiétude, c'est qu'ils vont sur le même terreau sur lequel le Hamas s'est développé, c'est-à-dire l'aspect caritatif, l'aide alimentaire. On ne sait d'ailleurs pas très bien d'où vient l'argent. Et là, effectivement, ils pourraient petit à petit faire de l'ombre au Hamas.
Simple citoyen ou responsable politique, la Croatie a exprimé sa consternation vendredi à l'énoncé du verdict. À La Haye, un de ses héros national, Ante Gotovina, a été condamné à 24 ans de prison par le TPI. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie l'a jugé coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 1995 dans une offensive contre les Serbes de Croatie, opération lors de laquelle 324 personnes ont perdu la vie. Pendant plusieurs années, la France aurait même tenté de le couvrir. C'est ce que nous explique Jean-Arnaud de Reims, journaliste et directeur du Courrier des Balkans.
Après son inculpation, il est clair que la France l'a protégé. Il a obtenu d'ailleurs un renouvellement de son passeport français à l'ambassade de France à Zagreb. À quelques jours du moment où il allait être officiellement inculpé par le TPI. Et l'on sait également par diverses sources que tout au long du début des années 2000, alors qu'en théorie tous les services de renseignement du monde cherchaient Gotovina, la DGSE française, au contraire, était en relation permanente avec lui et essayer de le protéger. Alors pourquoi est-ce que la DGSE a protégé Gotovina? Je crois qu'il y a beaucoup d'affaires que l'on ne connaît pas encore, notamment celle des fournitures d'armes françaises à la Croatie durant la guerre, sur lesquelles Ante Gotovina aurait probablement eu beaucoup de choses à dire.
Ce mardi, la conquête de l'espace était à l'honneur, notamment en Russie. Il y a 50 ans, le 12 avril 1961, le russe Yuri Gagarin devenait le premier homme à voyager dans l'espace. En pleine guerre froide, les Américains allaient quelques années plus tard conquérir la Lune. Depuis un demi-siècle, la conquête spatiale n'a cessé de repousser les limites. Une conquête qui a eu des répercussions concrètes sur le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour nous en parler, Alain Dupin, il est physicien et spécialiste de l'espace.
Le monde ne serait pas le même s'il n'y avait pas eu les satellites au cours des dernières décennies. Les satellites ont été des outils permettant de contrôler la limitation des armements, donc ont favorisé la paix. Il y a eu aussi les images extraordinaires de la Terre vue de loin dans l'espace, en particulier par les astronautes du programme Apollo, qui ont contribué à la prise de conscience écologique. Donc l'espace a vraiment changé la vie sur la Terre au cours des dernières 50 années.